affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons faire un bond dans le passé et aussi dans l'espace. Nous allons en effet nous rendre en Martinique, plus exactement en 1902, pour revivre un événement dramatique qui eut lieu, en l'occurrence l'explosion d'un volcan, celui dit de la montagne Pelée, et qui causa plus de... tenez-vous bien, plus de 29 000 morts. Un événement qui reste dans la mémoire de nombre de nos compatriotes, qui a été transmis. Un événement qui a fait l'objet de nombreux ouvrages. Mais aujourd'hui, nous allons l'aborder d'une façon différente, grâce à notre invité, Jean-Paul Poirier, qui est présent dans notre studio, qui signe un ouvrage sur cette catastrophe de la montagne Pelée, un ouvrage sous-titré « Un autre regard ». Et c'est bien le cas, car au-delà de la description de l'événement et de la catastrophe proprement dite, nous allons, avec lui, nous intéresser à la façon dont il a été reçu et interprété dans l'opinion publique, dans la presse parisienne, mais aussi américaine, voire aussi les jeux de pouvoir dont il est devenu un enjeu. Nous allons aussi nous interroger, comme cela était le cas à l'époque, mais en essayant de démêler le vrai du faux, sur la responsabilité des autorités, sur la façon dont elles ont géré cette crise, avant, pendant et même ensuite. Tout cela pour dire que nous n'allons pas faire seulement œuvre d'historien, mais poser des questions qui restent d'une brûlante, allais-je dire, actualité, notamment en raison du développement de principes tels que le principe de précaution, la montée d'un désir de risque zéro, toutes choses qui travaillent très en profondeur nos sociétés et que l'on va donc pouvoir éclairer à travers ce cas d'école. Jean-Paul Poirier, merci d'être parmi nous. Bienvenue, vous êtes ici chez vous puisque vous êtes membre de l'Académie des sciences et que Canal Académie est la radio de l'Institut de France qui rassemble toutes les académies. Vous êtes physicien de l'Institut de physique du Globe de Paris et aussi du bureau des longitudes. Tout d'abord, puisque tout le monde ne connaît plus, et oui, ça s'est passé en 1902, cette catastrophe, pouvez-vous simplement nous la relater de façon très factuelle avant qu'on voit la façon dont elle était reçue à l'époque?
Eh bien, la montagne Pelée est un volcan de la Martinique, dans le nord de la Martinique, qui avait fait une petite éruption assez bénigne en 1851. Donc, au pied du volcan, il y avait une petite ville absolument charmante, qu'on appelait la Perle des Antilles, qui était magnifique, dans un site absolument splendide, et assez moderne, et c'était le centre commercial de la Martinique, où là, on exportait le rhum et le sucre, essentiellement, surtout le rhum. Et en 1902, le volcan, qui était finalement jusqu'à présent assez calme, a commencé un petit peu à donner des signes d'activité. Il y avait de la fumée, il y avait des cendres qui retombaient un petit peu. Bon, on ne s'inquiétait pas trop. Et puis, quand même, vers le 5 mai 1902, il y a eu ce qu'on appelle maintenant à la hare, c'est-à-dire une coulée de boue qui a dévalé la rivière Blanche et qui a emporté une sucrerie et qui a fait déjà un certain nombre de morts. Alors là, les gens ont commencé à s'inquiéter un petit peu. Et puis, il est vrai que Saint-Pierre est assez, je dirais, inaccessible, enfin, difficilement accessible par voie de terre. Il y a une route qu'on appelle la Trace, qui existe toujours et qui est magnifique, d'ailleurs, de Fort-de-France à Saint-Pierre, qui traverse la forêt tropicale. Et puis, autrement, par mer, c'est beaucoup plus facile. Mais par mer, faut des bateaux et il y a un nombre de personnes qui peuvent aller. Donc, il y a des gens qui ont commencé à s'inquiéter et qui ont commencé à partir un peu vers Fort-de-France. Alors, pour des raisons sur lesquels peut-être nous reviendrons plus tard, mais la presse locale a dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ?» Bon, parce que, ben oui, mais parce qu'il y avait des choses qu'on pensait à l'époque, les gens n'avaient pas tellement peur du volcan, ils avaient peur d'un tremblement de terre. Parce qu'en 1839, Fort-de-France avait été assez abîmé par un tremblement de terre. Donc les tremblements de terre... Alors le volcan, finalement, on voyait ça un peu comme une soupape de sécurité. Bon, donc, ils disaient, bah, c'est très bien. Fort-de-France, bah, on ne sait pas. Bon, bref, c'était le 5 mai, ça. Le gouverneur, avec quelques autorités, les militaires, etc., est venu à Saint-Pierre pour un petit peu... rassurer la population en disant, voilà, il est arrivé le 7 dans l'après-midi, et le 8, ce qui était le jour de l'ascension, à 8h du matin. Alors, le volcan, on ne peut pas dire qu'il n'a pas explosé, ce n'était pas comme le volcan, comme le Mont Sainte-Hélène en 1980 aux États-Unis, mais il y a eu une nuée ardente, un jet violent de gaz et de roches, qui a dévalé en roulant sur les pentes et qui est arrivé sur Saint-Pierre et qui a absolument rasé et, on pourrait dire, incinéré Saint-Pierre parce que c'était très chaud, de l'ordre de 500 degrés au moins. Bon. Donc, voilà. Donc, et d'un coup, il y a eu un nombre de victimes incroyable. Et ça, c'était le 8 mai 1902. Et la nouvelle est arrivée à Paris par un bateau, un croiseur qui était là, est arrivé mais le 10. Et on a pu commencer, nous en reparlerons, on a pu commencer à en parler dans les journaux que le 10. C'était, mais voilà.
Alors, si vous me permettez, pour vous disiez les autorités et les journaux tentaient de rassurer la population. Votre livre est plein de ce type de témoignages. Il y en a un qui est particulièrement sidérant à cet égard. C'est un article paru dans le journal Les Colonies, qui date de la veille de la catastrophe.
C'était son dernier numéro, d'ailleurs.
Oui, car beaucoup des gens qui se sont trompés, et notamment le gouverneur dont vous parliez, en sont morts. Ce qui prouve qu'ils étaient probablement sincères. Ce qui est important à dire, c'est que les gens peuvent se tromper en étant sincères. En l'occurrence, dans donc le journal Les Colonies du 7 mai, voici ce que l'on pouvait lire. L'émigration de Saint-Pierre continue à se faire de plus en plus intense. Du matin jusqu'au soir et toute la nuit, ce ne sont que des gens pressés portant des paquets, des malles, des enfants et se dirigeant vers Fonds-Saint-Denis, la Morne d'Orange, le Carbet, etc. Quant aux vapeurs de la compagnie Girard, ils ne désemplissent pas. Pour donner une idée du mouvement d'affolement, la moyenne des voyageurs sur la ligne de Fort-de-France, qui était de 80 par jour, s'est élevée depuis 3 jours à 300. Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre? Ceux qui envahissent Fort-de-France imaginent-ils qu'ils seraient mieux là-bas qu'ici si la terre vient à trembler? C'est une grossière erreur contre laquelle il faut mettre en garde cette population. C'est ce que vous disiez, on craignait un tremblement de terre. S'il avait lieu, il devait emporter toute l'île, c'est bien ça le raisonnement. Et donc il n'y avait pas lieu de rester à Saint-Pierre. Comment face aux premiers symptômes, parce que finalement ils étaient là, vous l'avez dit, il y avait de premiers symptômes, des fumerolles, une première sucrerie emportée quand même par une coulée de boue, comment réagissent scientifiquement, c'est-à-dire auprès de quels experts se tournent vers les autorités, parce qu'ils ne sont pas restés passifs?
Bon, alors, il faut dire deux choses d'abord. D'abord, le phénomène de la nuée ardente était à l'époque inconnu. Et c'est Lacroix, quand il est venu, qui a vraiment compris la chose.
Oui, qui est Lacroix ?
Lacroix, alors nous en reparlerons, c'était un membre de le chef de l'expédition envoyé par l'Académie des sciences. Mais après, évidemment. Oui. Donc, la nuée ardente, car c'était une nuée ardente, on ne savait pas ce que c'était. Alors, premier point. Deuxième point, c'est que il n'y avait pas d'experts de volcanologues à l'époque, ou du moins, il n'y en avait certainement pas à la Martinique. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme gens à qui on pouvait demander des avis? Ben, des gens dont on pensait qu'ils pouvaient avoir une teinture scientifique. Alors, il y avait le colonel commandant l'artillerie. L'artillerie, c'est une arme savante. Hein, bon, il y avait un pharmacien. Puis il y avait des professeurs d'histoire naturelle, dont un en particulier qui n'était certainement pas un sot et qui s'intéressait au volcan depuis longtemps. Mais bon, l'expérience là... Depuis 1851, il ne s'était rien passé. Donc, il s'intéressait au volcan, mais il ne pouvait pas dire grand-chose. Et il est vrai que, s'il avait dit des choses pas bêtes, il avait dit ne restez pas en bas, plutôt monter sur les hauteurs. Mais ça, contre la nuée ardente, ça n'épouvait rien.
Oui, car tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une coulée de lave.
Ben voilà. Ben, mais la coulée de lave, en fait, c'est pas le style de ces volcans-là. Hein.
Oui, car pour éclairer nos auditeurs, semble-t-il, il y a deux types de volcans, et celui-ci appartient au type qu'on appelle explosif.
Voilà, ce sont des volcans qui ne font pas des... Le volcan comme le Piton de la Fournaise à La Réunion est tout à fait inoffensif. Lui, il fait de la lave fluide, il fait des coulées de lave. Bon, on se met pas sur le chemin et puis voilà. Les volcans explosifs sont beaucoup plus imprévisibles. Et on ne peut même pas vraiment savoir, même maintenant, si ça va se terminer en catastrophe ou si ça va s'apaiser.
Parce que peut-être peut-on décrire de façon un peu plus précise, à la fois de façon imagée et scientifique, ce qu'est une nuée ardente.
Bon, alors une nuée ardente, c'est... Bon, le volcan se réveille et donc il y a des... Bon, du magma qui monte un peu, mais qui se solidifie un petit peu en montant, donc il ne peut pas se couler. Mais tout ça est très chaud. Et il y a le volcan, ça, c'est une éponge, il y a plein d'eau. Bon. Et donc cette eau se vaporise. Et alors, se vaporise à très haute température. Donc de l'eau vaporisée à très haute température et qui a tendance à partir et à couler. Il y a des nuages entiers de cette vapeur d'eau très chaude. Qui emmène des blocs de roches, même quelquefois énormes, et ça descend à des vitesses de quelques centaines de kilomètres à l'heure, quoi. Donc c'est extrêmement rapide.
Mais c'est plus rapide qu'un ouragan, vous dites.
Ah ben bien sûr, c'est très rapide et très chaud et très lourd en même temps. Donc ça démolit tout et ça brûle tout sur son passage. Et bon, comme on est brûlé avec de la vapeur d'eau. Hein, c'est-à-dire la vapeur d'eau, des accidents de chaudière, la vapeur d'eau très chaude.
C'est effroyable.
C'est effroyable. Bon, voilà. Donc voilà cette nuée ardente. Et ça dévale le long des pentes. Ça a été jusqu'en mer. Et il y a des bateaux qui étaient dans la rade. Ils ont coulé. Hein.
Oui, à l'exception d'un seul dont vous parlez, parce qu'il a une coque en métal.
Voilà. Mais il y a eu quand même des victimes dessus. Et
dont le capitaine.
Dont le capitaine, voilà.
Alors, pour mieux comprendre la soudaineté de la catastrophe, si je ne me trompe pas, c'est un phénomène qui est tellement rapide et soudain qu'il se passe combien de temps entre l'explosion et le moment où il atteint la ville ?
C'est extrêmement rapide. Hein. C'est de l'ordre de bon. On a noté l'apparition du phénomène à 8h02. Après ça, plus personne ne pouvait vraiment noter quoi que ce soit. Mais en quelques minutes, c'était réglé. Hein.
Alors il y a quand même il reste néanmoins des témoins, peut-être des gens qui se trouvaient dans des villes proches, et puis ceux qui se trouvaient justement dans la rade ou sur deux navires, qu'ont-ils observé ?
Eh bien, ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas compris du premier coup, les gens qui arrivaient là, ils ont vu ce panache de vapeur grise, etc., qui coulait et qui arrivait sur Saint-Pierre. Et donc ils n'ont pas bien compris, puis ils se sont approchés, et ils ont vu que Saint-Pierre, il n'y avait plus de Saint-Pierre, voilà. Donc ça a été extrêmement, extrêmement brutal.
Alors justement, je crois que c'est le témoignage d'un capitaine de navire, Suchet, si je ne me trompe pas.
Oui, le croiseur Suchet, qui était de la Marine nationale. Hein.
C'était
un commandant.
C'est ça. Qui transmet le premier un câblogramme, dites-vous. Qu'est-ce qu'un câblogramme, d'ailleurs?
Je me suis posé la question. Oui, bien sûr, oui.
Qu'est-ce qu'un câblogramme par rapport à un télégramme? C'est la même chose.
Ça passait par câble. D'accord. Un câble sous-marin.
Oui. Un câble sous-marin, voilà, qui transmet la nouvelle. Comment est-elle réceptionnée dans un premier temps à Paris?
Dans un premier temps, on ne le sait vraiment que finalement, et mal, par les journaux. Bon, donc ça a été au ministère des colonies. Au pavillon de Flore, à l'époque, c'était au pavillon de Flore. Et le ministre des colonies, d'accord, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, le temps que la nouvelle arrive, qu'on sache exactement ce qui s'était passé, on va faire une souscription nationale, on va, etc. Mais bon, finalement, on n'a pas fait, je ne sais pas si on pouvait faire mieux, probablement, mais on n'a pas fait grand-chose immédiatement, sauf de dire, ben, c'est bien dommage, mais... Donc, et
oui,
puis...
c'est là qu'on a l'impression, quand vous dites même souscription nationale, c'est même pas une souscription d'ampleur, comme,
non,
comme on
non,
ferait,
non.
Je sais pas, en temps de guerre, c'est, ça ressemble à un truc de dame patronesse, quasiment.
Bah, oui, en quelque sorte, oui, c'était... D'ailleurs, on voit bien que, quand on voit les sommes qui ont été souscrites par le, même par le président de la République, Émile Loubet, bon, c'était quand même pas grand-chose. Et si oui, on compare que... surtout à ce qu'ont fait les Américains.
Oui, ça, on y reviendra dans un second temps, mais peut-être dans le cadre d'une réflexion, d'ailleurs, sur l'éloignement, parce que on peut accabler
oui,
le gouvernement français, mais les États-Unis sont juste à côté.
C'était nettement plus loin, bon. Alors, on a donné l'ordre au croiseur Suchet d'aller à la Guadeloupe chercher des provisions pour rapporter, etc. Bon, bien sûr, mais ça, c'était...
Alors, ce qui est quand même assez sidérant lorsqu'on consulte votre ouvrage, et notamment la série des unes des jours qui suivent cet événement absolument dramatique, c'est que finalement, dans la presse parisienne, c'est quasiment de l'ordre du fait divers, de l'ordinaire, mais dans la rubrique des faits divers.
On pourrait dire ça comme ça, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le point qui est... On pourrait dire ça qui est amusant, mais enfin, ça ne l'est pas beaucoup, mais c'était que les journaux parisiens, à l'époque, tous, sans exception, étaient ce qui mobilisait les foules, l'intérêt des foules, c'était une affaire d'escroquerie, il faut bien dire, assez extraordinaire. Mais donc, c'était l'affaire dite à Humbert Crawford, et ça, le 10, quand est arrivée la nouvelle de la catastrophe, de la pelée, les journaux ne l'ont pas mis, pratiquement la majorité ne l'ont pas mis en première page. En première page, c'était l'affaire Humbert Crawford.
Oui, et si c'est en première page, c'est en mode mineur.
Ben oui. Non, mais c'était, ou si c'était en première page, c'était en deuxième, troisième colonne. Bon, et ça, parce que cette affaire était effectivement assez extraordinaire, je vais en dire deux mots quand même pour qu'on comprenne.
Oui, bien sûr, il faut.
C'était une fille de paysan du sud-ouest qui avait fait un assez beau mariage avec quelqu'un dont le père était dans l'administration, la haute administration, etc. Et puis, elle avait trouvé cette idée géniale de dire qu'elle était l'héritière d'un riche américain qui lui avait laissé 100 millions de francs de l'époque, c'est pas mal. Bon. Et donc, avec cet héritage-là, malheureusement, il y avait des cousins qu'elle avait évidemment inventés qui contestaient l'héritage et donc elle ne pouvait pas y toucher. Donc, ils étaient dans son coffre-fort, dans son hôtel particulier qu'elle avait acheté avenue de la Grande Armée, grâce à des prêts. Toutes les banques, incroyablement peu soupçonneuses, avaient, avec la garantie de ces 100 millions dans le coffre-fort, elles lui avaient donné des prêts sur prêts, de sorte qu'ils menaient vraiment grand train. Et ils avaient acheté cet hôtel particulier avenue de la Grande Armée, ils avaient acheté un château, un joli château en Seine-et-Marne, et ils me donnaient des réceptions splendides, etc. Bon, et puis un jour, et c'était justement à ce moment-là, il y a un créancier un peu plus soupçonneux que les autres et qui a dit, mais quand même, ces 100 millions, on aimerait bien les voir. Alors, ils sont dans le coffre-fort, est-ce qu'on ne pourrait pas voir quand même un peu ça? Bon, alors, finalement, le tribunal a dit, bon, d'accord, on va... Eh bien, on a cherché les braves gens, et ils avaient disparu. Et puis, on a fait venir un serrurier. Et un serrurier est venu, et justement, le 9 mai, c'est-à-dire le lendemain de la catastrophe, qui n'était même pas encore connu à Paris. Bon, le 9 mai, on a ouvert le coffre-fort. Qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? Ben, un bouton de culotte, quoi. Bon. Alors, évidemment, ça a fait la
c'est
une...
C'est rocambolesque.
Ça a fait la une des journaux, parce que pendant 20 ans, ils avaient vécu là-dessus. Bon. Et donc, tous, et sans exception, c'était l'affaire du jour. Et bon, la montagne Pelée, c'était loin... Et puis, disons, bon, c'était loin. Et puis, disons-le quand même aussi, disons-le aussi. Bon, c'est pas dit toujours comme ça, mais en sous-entendu, ben, c'était des nègres, quoi. Bon, hein. Bon, essentiellement. Bon. Bon, alors, c'était quand même pas de la première importance, quoi. Bon.
Oui, il y en a d'ailleurs qui ne manquent pas de se désoler de la catastrophe économique que cela représente aussi.
Ah, bien sûr.
Sur le même plan que...
Ben, bien sûr.
Voilà. Car finalement, c'est de la force de travail qui a disparu. Alors dans ce tableau général, qu'est-ce qui fait évoluer les choses? Car quand même, petit à petit, on prend peut-être conscience aussi, parce qu'il faut voir les choses avec justice malgré tout, c'est très éloigné, on n'est pas encore à l'heure d'Internet ni même du téléphone, tout le monde est mort par ailleurs, même sur place, visiblement, on ne s'y rend pas immédiatement. C'est-à-dire que...
Voilà. Donc il y a deux choses différentes. Il y a la réaction de la presse et puis la réaction des pouvoirs publics. Bon, les pouvoirs publics, comme je dis, il y avait de toute façon la Martinique et la Guadeloupe à l'époque étaient des colonies, donc il y avait un gouverneur. Bon, le gouverneur était mort, donc il y a eu un gouverneur par intérim qui était le secrétaire général, je crois.
Oui, car le gouverneur initial, peut-être faut-il le préciser aussi, s'était rendu la veille de la catastrophe avec femme et enfants, je crois.
Oui.
Pour montrer que les pouvoirs publics étaient sereins.
Ben voilà, pour dire que voilà, on bon, et finalement, bon, compte tenu de ce qu'on savait, etc., c'était difficile de prévoir. Bon voilà, c'était très difficile de prévoir ça. Ça pouvait aussi bien se calmer. Hein. Et donc, voilà. Donc, le gouverneur avait des instructions, mais évidemment, il ne pouvait pas venir grand-chose de Paris, hein, matériellement. Donc, ce qui a été fait assez rapidement, lors de quelques semaines, c'était mais là, c'était purement scientifique, c'était pas économique, c'était que l'Académie des sciences a envoyé une mission pour essayer de comprendre et de faire l'état des lieux, quoi. Et qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Combien il y avait eu de morts? Enfin, comment, de quoi était-il mort? Comment, etc. Donc ça, c'était... Mais finalement, c'était le gouverneur local qui devait prendre ses initiatives et il ne pouvait pas faire grand-chose à part évidemment, essayer de déblayer un petit peu Saint-Pierre. Et puis, en plus, il faut voir aussi que le 8 mai, c'est bien, mais le 20 mai, il y a eu une deuxième éruption encore plus violente, mais qui n'a qui n'a pas fait grand dommage à Saint-Pierre, qui était déjà totalement détruit, mais qui est tombé de l'autre côté de la pelée aussi, et qui a fait là pas mal de dégâts également. Hein. Donc la montagne n'était pas arrêtée. Donc ils ont essayé de venir sur Saint-Pierre, de brûler les cadavres, etc. Enfin, qu'il était déjà beaucoup. Enfin bon.
Oui, mais parce que dans les jours qui suivent, on passe d'un désintérêt relatif que nous avons décrit à un intérêt croissant, mais avec des arrière-pensées quand même dictées non par l'événement ou le souhait des secours, mais dans la presse parisienne, le monde politique parisien, petit à petit, l'affaire prend de l'ampleur.
Je n'en suis pas complètement sûr. Non, qu'elle ne prend pas beaucoup d'ampleur. On continue à en parler un peu, mais...
Et puis on interpelle quand même les pouvoirs publics pour
dire... Ah, mais ça, oui. Oui, mais alors ça c'est un peu autre chose, parce que là, finalement, je dirais, c'était un bon prétexte également. Parce que, bon, alors il faut bien voir le contexte politique en France à l'époque. Bon, le gouvernement, c'était Waldeck-Rousseau, puis après ça, c'était le petit père Combes. Bon, donc c'était un gouvernement de gauche, radical, anticlérical, la loi de séparation des églises et de l'État date de 1905. Bon, mais le petit père Combes est arrivé avant ça, bien sûr. Donc, il y avait... Bon, donc il y avait une presse d'extrême droite qui était très remontée contre le gouvernement. Bon, on n'a pas dit que l'explosion de la montagne Pelée était due au gouvernement, mais on a parlé des responsabilités, etc. Donc la presse était très remontée. Et puis, il faut bien dire, dans le même contexte, l'affaire Dreyfus n'était pas vraiment terminée. Bon, Dreyfus avait été gracié il y a quelques années avant.
Mais pas encore réhabilité.
Mais il n'était pas encore réhabilité. Donc, tout ça fait qu'il y avait des presses comme l'Intransigeant, qui était le journal de Henri de Rochefort, ou des journaux d'extrême droite, comme à l'époque La Croix, qui a changé depuis, bon, etc. Bon, ça, c'était vraiment... donc là, tout prétexte était bon pour accabler le gouvernement. On lui a reproché, à juste titre, on a reproché au président de la République, qui partait en visite d'État en Russie, d'être parti, malgré tout ça, de ne pas avoir fait des journées de deuil national, où bon, il a assisté à des fêtes en son honneur à Brest, avant de s'embarquer sur un croiseur pour partir en Russie. Donc ça, c'était peut-être pas très malin non plus. Hein, bon.
Oui, mais d'ailleurs, ça fait écho à des choses qu'on peut reprocher aujourd'hui encore à nos gouvernants dès lors qu'il se passe une catastrophe. À tel point d'ailleurs
ils ont compris la leçon. En général.
Ils ont compris la leçon à telle enseigne que même s'il passe un accident de la route un peu.
Oui, oui.
avec un peu de relief, on voit une partie du gouvernement se rendre sur les lieux de la catastrophe, ce qui probablement n'aide pas tellement les secours. Mais c'est pour dire que ces événements nous semblent à la fois extrêmement éloignés dans le temps, parce qu'effectivement, il y a une virulence dans le ton. Et puis un style journalistique souvent un petit peu enlevé et des postures très théâtrales, mais en même temps, finalement, les jeux d'acteurs autour des crises sont quand même assez proches de ceux qu'on peut vivre aujourd'hui.
Bien sûr. Ouais.
Alors, à cet égard, dans ce jeu d'acteurs, il y a certes les journalistes, il y a l'opinion publique, l'émotion qu'on peut exciter ou tenter de calmer, l'émotion populaire, je veux dire. Et puis, il y a, comme toujours, quand il se passe des catastrophes, le recours aux experts. Alors, comment cela se passe-t-il en la circonstance ?
Là, le recours aux experts, c'était évidemment après la bataille, si j'ose dire. Bon. Donc, les journaux ont été demandés leur avis. Alors, en général, il n'y avait pas énormément de gens qui étaient compétents en la matière, mais il y avait quand même des géologues qui étaient loin d'être mauvais. Bon, en particulier, il y avait Albert de Lapparent, qui était le grand de l'Académie des sciences, le grand géologue illustre, et à qui on venait de demander. Alors, il expliquait autant qu'il pouvait, parce qu'encore une fois, il ne connaissait pas bien ce système de volcans. Les nuées ardentes comme ça, on n'en avait pas l'expérience. Et c'est vraiment la croix, donc je reviens sur la croix, qui a été envoyée par l'Académie des sciences, mais auquel la presse ne s'intéressait pas, quoi. Bon, c'était... Donc, on venait demander essentiellement... Et puis, il y avait tous ces experts autoproclamés. Bon, alors là, qui expliquait comment ça s'était passé, qui expliquait exactement, alors là, on a les choses les plus abracadabrantes. Il ne comprenait pas que cette nuée comme ça a pu faire autant de dégâts. Donc il pensait qu'il y avait eu une explosion au sein de la nuée, ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Bon, elle était simplement très chaude. Mais que, donc, il y avait des gaz qui s'étaient... des choses stupides, que la température était si élevée que l'eau se décomposait en hydrogène et en oxygène, et que l'hydrogène et l'oxygène se recombinaient en explosion, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que si on peut décomposer, on ne peut pas recomposer en même temps. Ça, c'est pas les bonnes conditions. Non. Mais enfin, bref, tout ça, qu'il y avait des gaz, que les gens avaient été empoisonnés par des gaz toxiques qui étaient là, que la nuée avait fait le vide et que les gens étaient asphyxiés, qu'ils avaient été asphyxiés par du CO2, qu'ils avaient... Enfin, bref, il y a tout. On a dit tout et le reste. Hein, c'était assez extraordinaire. Parce que, encore une fois, un phénomène qu'on ne comprend pas, eh ben, essayer d'expliquer avant d'avoir compris, ça amène à ce genre de choses. Hein.
Oui, d'ailleurs, on peut aussi noter dans le même ordre d'idées, parce que de fait, cet événement monstrueux et qui provoque la sidération, la disparition de 29 000 personnes en quelques minutes, ça provoque la sidération, et donc tout un tas d'explications. Enfin, et puis dans des conditions qui sont en plus très évocatrices. Le feu, l'explosion, tant et si bien que certains évoquent même d'ailleurs aussi la vengeance divine.
Ah oui, absolument, mais d'ailleurs on a
la punition
beaucoup,
des péchés.
Mais beaucoup en parlaient à ce moment-là, dit c'est le Pompéi moderne. Et beaucoup même des, en particulier un Américain qui n'était pas idiot, dit oui, mais enfin bon, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Pompéi, etc. Sauf que c'est pas vrai.
Bon. Oui, mais la description des témoins peut le laisser penser.
Non, non, pas du tout.
Ah bon, d'accord. Bon, vous voyez, je reproduis les mêmes erreurs.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs,
quand vous citez Pline.
Oui, mais justement, oui. On parle d'une éruption plinienne. Et bon, il y a des éruptions pliniennes, des éruptions péléennes. L'éruption plinienne, qui est au mot Vésuve, c'est une grande colonne qui monte et qui fait un champignon en haut, puis qui retombe en pluie fine, de cendres. Ça n'a aucun rapport avec une nuée ardente. Dans les Péléens, ça c'est l'explosion, c'est de la nuée ardente. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, et ça, Camille Flammarion, qui n'était pas un sot, l'avait parfaitement compris. Il a dit, mais à Pompéi, tout est resté intact. On voit les fresques, les trucs, pratiquement les meubles. Enfin, il reste, tout est impeccable. Alors qu'à Saint-Pierre, tout a été brûlé.
Oui,
il ne reste plus rien.
Il ne reste plus rien, à l'exception d'ailleurs d'un bâtiment.
Alors ça,
qui va susciter l'imagination et être repris de multiples reprises jusqu'à donner lieu à des œuvres littéraires. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment qui, en l'occurrence, est un cachot?
Alors voilà. Donc c'était un cachot. Et comme tous les cachots, c'était solide et c'est tout petit.
Il est en couverture du livre.
Avec juste une petite ouverture, une porte pour entrer. Et c'était un véritable blockhaus. Bon. Et ça, c'était formidable, parce que d'abord, ça pouvait résister au bloc qui retombait, et en plus, il était orienté de façon qu'il tournait le dos à la nuit qui arrivait.
L'ouverture était du bon côté.
Alors, il y avait un prisonnier dedans, alors on a dit beaucoup de choses et le reste. Ce prisonnier était évidemment un natif du coin, là. Qui était un ouvrier agricole, plus ou moins, et qui était qui avait dû s'enivrer comme pourquoi pas dans le soir. C'était la veille de l'Ascension, bon, il y a des trucs. Et puis il avait une bagarre dans un bistrot, etc. Il avait dû blesser un peu un camarade et on l'avait collé au cachot en attendant. Bon, et voilà. Et donc il s'est retrouvé et là ça a été pas le seul, non, il y avait eu un autre, il y avait eu un cordonnier qui était habité un peu plus loin, et puis dont la maison était aussi assez bien orientée, qui avait réussi à s'en sortir. Bon, ce cyparis, puisqu'il s'appelle ainsi, le qui était dans le cachot, son histoire est tellement plus romanesque qu'on a un peu oublié l'autre.
Bon. Samson Cyparis.
Oh, bonsoir, alors là, on peut dire, il s'appelle quoi, comme on veut, hein. Et bon, ben, il y a au moins une demi-douzaine, le nom était, bon, de toute façon, il ne l'avait pas écrit, hein. Donc, on a inventé tous les noms possibles et imaginables. Et donc, lui a été retrouvé 2 ou 3 jours après, par des gens qui se baladaient un peu dans les ruines pour voir si on pouvait trouver quelqu'un. Et ils ont entendu qu'il appelait, ils l'ont amené chez le curé d'un village à côté, Morne-Rouge, qui était un brave homme apparemment, qui a la soigné, gardé là, et il était là. Et quand les gens sont arrivés, en particulier au début des journalistes américains et français, un journaliste en particulier qui a répandu la majorité de ce qu'on appellerait maintenant des fake news sur l'histoire, mais bon, ça c'était il a été vraiment
oui, ce sont toxique. Des rumeurs, parce que
lui a inventé des choses, quoi.
Oui. Bon, il a, mais pas dans un pas dans un but idéologique ou politique,
si. Certainement que si, parce que c'est, tout ce qui pouvait faire tort au gouvernement, pour lui, c'était pain béni, hein. Bon, donc je pense que
Mais vous pensez auquel de journaliste?
Je pense à S.
Ah, S, oui, d'accord.
Non, le journaliste américain était parfait. Et d'ailleurs, ils ont écrit 2 livres, un livre chacun, et il suffit de comparer les livres.
Non, mais S est épouvantable, parce que si je ne me trompe pas, en plus, il remet complètement en cause toute l'histoire. Il était un journaliste d'investigation, alors que ce n'est pas le cas.
Et il raconte ça en mettant une dizaine de pages pour expliquer ça d'un ton très humoristique et charmant. Bon, donc, ce n'est pas vrai du tout, c'est une histoire inventée. Voilà. Donc ce prisonnier qui s'en est sorti, donc on a beaucoup parlé de lui, et je le dirai peut-être après, mais on en parlera peut-être après, mais il y a eu une dizaine de livres qui ont paru aux États-Unis, qui ont chacun raconté l'histoire de façon la plus incroyable possible, de façon différente d'ailleurs. Bon, et puis finalement, il a terminé sa carrière aux États-Unis en étant embauché dans le cirque Barnum. Et il y avait une reproduction de son cachot, etc. Et on le montrait dans les foires. Voilà.
Oui, ce qui est assez épouvantable, c'est-à-dire que ce pauvre homme dans son cachot, surpris par ce... Fini, lui, finalement, dans un cachot factice, montré...
Il ne vivait pas dedans. Hein.
Oui, oui, bien sûr, mais enfin, il finit quand même sa vie montré dans ce cachot. Enfin, c'est comme une fable moderne, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à broder sur cette histoire à l'infini, ce qui n'a pas manqué d'être fait. Alors, justement, là aussi, après le monde du journalisme, celui de l'édition, vous avez retrouvé toute une série d'éditions, d'un livre unique, identique, mais signé par des auteurs différents, mais édité par le même éditeur.
Ce sont des mystères éditoriaux qui me dépassent. Bon, alors là, je ne sais pas du tout. J'en ai parlé à des éditeurs qui ne comprennent pas, mais moi, je ne sais pas. Mais enfin, le fait est là. Là, ces bouquins, je les connais, je les aime.
C'est-à-dire qu'au-delà de la fake news, est-ce que ce fameux Samson Sibaris, je décide de retenir ce nom-là parce que je trouve très, très évocateur, n'est pas devenu une sorte de mythe contemporain, moderne, dont finalement chacun peut s'emparer pour en avoir telle ou telle lecture, éventuellement avec des arrière-pensées pour les uns religieuses, parce que ce serait une histoire de rédemption.
Je ne sais pas si on s'en est beaucoup servi. C'est devenu un mythe, c'est une histoire romanesque, mais je ne pense, enfin à ma connaissance, je ne pense pas qu'on s'en soit beaucoup servi dans des buts plus ou moins politiques ou autres. Ou même religieux.
Il y a certains témoignages quand même qui insistent sur le côté que lorsque le monde s'écroule dans la fournaise...
Oui, mais pas pour Sibaris en particulier.
Sibaris, il y a ça, mais même pour Sibaris, on dit... Et lui reconnaît ses péchés.
Oui,
il est dans la rédemption.
Je pense
ça plaît
pas
beaucoup
que
les histoires
été,
de rédemption.
Oui, mais je pense pas que ça a été très utilisé, voilà, moi-même.
Mais ça correspond à une sensibilité de l'époque, non, quand même. Enfin, ces histoires nous en disent beaucoup aussi sur la mentalité et ce qu'on peut mobiliser comme émotion, simplement, chez le lecteur. Pour quelqu'un qui voudrait faire un roman, c'est une des émotions à mobiliser. Et est-ce que son témoignage a eu une utilité scientifique parce que,
Le témoignage de Sibaris ?
Oui.
Absolument. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire ?
Je ne sais pas, par exemple, il y a un élément qui m'a semblé intéressant, c'est que lui était brûlé, mais pas ses vêtements.
Il n'y a pas que lui.
Il n'y a pas que lui.
On a bien vu que quand la croix est arrivée, qu'il a fait qu'il a regardé un peu partout, il a bien vu qu'effectivement, donc ce qui prouvait bien que ce n'était pas des flammes. C'était la vapeur d'eau surchauffée et qui pouvait brûler, absolument, faire des brûlures du troisième degré, mais les vêtements ne brûlaient pas. D'ailleurs, la croix, quand il s'est baladé un petit peu dans les ruines, a pu faire des experts. Regardez, il y avait des boîtes de conserve, des choses comme ça, voir comment ça avait, si les soudures avaient lâché, etc. Donc il a pu voir un certain nombre de choses, montrer que comment la température avait dû atteindre au moins sans doute 500 degrés, mais sans doute pas 1000, etc. Et donc ça, c'est... Mais lui, Mayor aussi Paris, il disait, d'accord, il était brûlé, et il suffoquait, parce qu'effectivement, cette vapeur qui arrive et qui est chargée de particules, de cendres, et qu'on s'étouffe, c'est abominable. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus que ce que pouvaient dire tous les gens qui étaient pas juste dans le centre, donc qui a survécu, mais qui ont survécu que certains très mal en point, et qui avaient les mêmes symptômes que ceux qui en sont morts.
Oui, finalement, là, ce qu'il distingue, c'est d'avoir été à l'épicentre, en quelque sorte, alors que ceux qui étaient aux marges du périmètre...
Ceux qui étaient aux marges étaient très brûlés, étaient s'étouffaient, etc. Mais donc Sibaris, son témoignage n'a rien à dire de plus que ce qu'on savait par ailleurs.
Bon, c'est pour ça que finalement... Le cirque Barnum avait plus à en faire que l'Académie des sciences.
Ça, c'était un phénomène unique. Donc, comme Barnum, c'était les choses qui étaient uniques.
Toujours est-il qu'il était jusqu'à inspirer des poètes italiens.
Absolument.
Un assez beau poème, d'ailleurs, je dois dire.
C'est un beau poème. Et c'est un poète italien qui s'appelait Giovanni Pascoli et qui était considéré comme un des grands poètes italiens de l'époque, et qui a écrit, alors donc ça justement, c'était un thème d'inspiration pour un poète, qui a écrit le Nègre de Saint-Pierre, poème qui a eu, paraît-il, beaucoup de succès en Italie à l'époque, et qui a été,
Peut-être en lire un extrait, non ? Parce qu'il
Pardon ?
On peut en lire un extrait de...
Vous en prie.
Est-ce que vous souhaitez le faire ou je le fais ? Oui. Donc, ça se déroule au moment où la montagne se réveille, et en même temps qu'elle se réveille, elle s'adresse à Sibaris, qui est encore dans son cachot. Elle parla, donc la montagne, et dans sa grande voix, l'exaltation du feu intérieur, et se tut. Moi, levant les yeux au ciel, dans la... taciturne solitude. À la haute nuit, je suspendis mon cœur. N'entendrai-je plus voix d'homme, cris de fête, vol de mouche ? Les abîmes se taisaient, tout se taisait, et le mont reprenait. Mon fils, le monde est mort, l'homme, le rat, l'araignée, le temps, tout. Nous sommes deux, tu es seul. Il n'y a plus d'échafaud, plus de ville, plus de bagne. La hache, je l'ai fondue, j'ai brisé les chaînes. Je répondis, oh, si j'avais un compagnon. Et le mont, ne m'as-tu pas moi ? Celui aux veines vides, mon âme, même celui-là, je l'accepterais. Et le mont, celui-là, ce n'était pas moi, tu le sais bien. Oh, il suffirait aux nègres seulement celui-là maintenant. Mais non, il ne tenait qu'à toi si tu avais ouvert un peu les doigts. Oh, que le nègre ne veut d'autre que celui-là. Il parle bien sûr de celui qu'il aurait assassiné auparavant. Donc c'est oui. Là, on n'est pas dans le modèle de la rédemption, non, voilà. On est dans le tragique complet. Il est sauvé, mais en quelque sorte,
donc là, effectivement, le poème, et d'ailleurs, je ne suis pas complètement sûr de lui avoir rendu justice dans ma traduction, mais enfin bon, le point, c'est que on a enjolivé son histoire en disant qu'il avait été condamné à mort. Bon, alors là, effectivement, et que juste au moment de l'exécution, le matin, la montagne Pelée arrive. Alors ça, c'était pas vrai, évidemment, mais ça.
Oui,
ça,
il était plus en cellule de dégrisement, en quelque sorte.
Bah voilà, en quelque sorte, oui. Absolument. Donc c'était pas vrai, mais ça a contribué à faire de lui ce mythe. Bon, et donc les romans s'en sont emparés. Bon, il y a un excellent auteur martiniquais qui s'appelle Raphaël Confiant et qui a écrit des très bons romans. Et il y a un roman qui s'appelle Nuit ardente. Et il y met en scène également Cyparis, la veille de son exécution, etc. Donc c'est un thème pour les romanciers, les poètes, etc. Ben voilà.
Oui, ça commence comme une pochade et ça se termine comme un livre de Jean Genet. Quoi.
Ben voilà.
Alors avec le recul, puisque nous arrivons au terme de l'émission, avec le recul, quels enseignements tirez-vous de toute cette affaire, de la façon dont elle était gérée, analysée
Alors, voilà.
Désormais, les autorités coupables, pas coupables, dans quelle mesure? Alors,
effectivement, en particulier des gens comme Jean Hesse qui avait un os à ronger avec les autorités coloniales. Bon, on n'a pas été tendre, mais bon. Mais bon, voilà. Le fait que, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Prévoir, c'était pas possible. Même prévoir l'évolution, ce n'était pas possible. Et en gros, c'est toujours à peu près impossible. Maintenant, ces volcans sont extraordinairement imprévisibles. Tous les volcans de la chaîne Antilles, les volcans des zones de subduction, comme ça, on ne sait pas bien comment il est. Bon, alors ça, à l'époque, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire localement? Pas grand-chose. Évacuer, mais bon, les gens commençaient à évacuer un petit peu, mais c'était très difficile de toute façon. Parce que évacuer par bateau, avec des petits bateaux à vapeur, et puis par terre, c'est bon. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis un petit peu, c'est vrai que. Mais bon, voilà. Alors les autorités de la métropole, ça c'est un petit peu différent. Effectivement, on a reproché aux autorités de pas avoir ce qu'il fallait. Et puis il y a eu ce qui s'est passé pour les il y a eu quelques éruptions après, et là le nouveau gouverneur a vous dit allez maintenant retournez chez vous, et les gens voulaient évacuer, retournez chez vous, allez travailler. Là c'est manifestement, là il y a eu, mais c'était la responsabilité du gouverneur, mais qui était sans doute couvert d'en haut. Bon, donc là c'était très difficile à l'époque de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Bon, alors après ça, bien sûr, la leçon de la montagne Pelée est quand même restée un peu dans les têtes des gouvernants. Quand, au moment de l'éruption de la Soufrière en 76, en 1976, oui, bon, on ne savait pas non plus, parce que c'est le volcan voisin, hein, sœur, si j'ose dire, bon, on ne savait pas non plus comment ça allait se terminer. Mais Et le président Giscard d'Estaing a survolé la Guadeloupe et il a dit je veux que sera la priorité absolue, c'est la sauvegarde des vies humaines. Bon, c'était oui. Hein. Bon, donc effectivement, quand on après ça, on voyait que les choses n'allaient pas se calmer, on ne savait pas bien, et on a les autorités préfectorales à l'époque, parce que maintenant c'était devenu un département, bon, ont décidé d'évacuer. Bon. et on ne peut pas le reprocher parce que s'il n'avait pas évacué, alors évidemment, après ça s'est calmé, ce qui était impossible de prévoir. Bon, même Taziev qui disait, bah oui, ça va se calmer, mais il n'en savait rien. La preuve, c'est qu'il a dit pareil au Mont-Sainte-Hélène et il n'en savait rien non plus. Bon, donc on ne peut pas, on ne sait pas. Mais on peut surveiller et vraiment avoir, si ça s'aggrave vraiment, on dit, bon, à partir d'un certain point, on évacue. Bon, et c'est ce qu'ils ont fait. Et à mon avis, ils ont bien fait, parce que... Et puis, les autorités là, si jamais ça avait mal tourné, bon, le président de la République avait donné des instructions. Il avait dit, priorité, sauvegarder les vies. Bon, quand même... Bon, alors, à ce moment-là, on évacue. Mais vaut mieux évacuer pour rien que ne pas évacuer pour quelque chose. Bon.
Est-ce que ce n'est pas le signe d'une évolution de la sensibilité aussi, et du rapport au risque, au-delà des connaissances scientifiques et du précédent, qui, bien sûr, éclaire la décision?
Certainement. Et le précédent, on savait que la montagne Pelée était le volcan. C'était le même, en gros, quoi. Bon. Et donc, on savait ce qu'il avait fait. Donc là, il est clair que on avait quand même un point de repère. Donc c'est pas. Alors il est évident que les choses se présentent très différemment pour d'autres volcans. Au Piton de la Fournaise, à La Réunion, le vrai problème pour les autorités, c'est un vrai problème. Le vrai problème pour les autorités, les préfets, etc., c'est d'empêcher la circulation des touristes qui viennent voir l'éruption, quoi. Parce que ça fait des embouteillages extraordinaires sur l'île, parce que les gens ont envie d'aller voir de près. Bon, ils ne courent aucun risque, mais effectivement, ça pose des problèmes. Mais ce n'est pas tout à fait du même ordre.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur, de cet éclairage. Un éclairage qui nous en apprend plus sur les volcans, les différences entre les volcans, mais probablement encore davantage sur les différences entre notre époque et le début du siècle dernier. Car à bien des égards, votre livre est un livre de physicien, mais pourrait être, je pense, donné aussi... à titre d'illustration dans les écoles de journalisme ou dans les écoles d'administration.
Pour leur montrer ce qu'il ne faut pas faire.
Pour leur montrer ce qu'il ne faut pas écrire. Ce qu'il ne faut pas écrire, les bidouillages, la façon de se recopier, car tout ça est présent également, mais peut-être aussi dans les écoles d'administration ou les écoles préfectorales, de façon à préparer les uns et les autres aux difficultés de leur métier, car de fait, ce n'est pas facile de décider. Dans le brouillard, décider, ce n'est jamais facile. Décider dans le brouillard avec des connaissances scientifiques nécessairement imparfaites et toujours à améliorer, ce n'est pas facile non plus. C'est pourquoi il faut se plonger dans cet ouvrage, sidérant par l'aveuglement des décisionnaires de l'époque, mais en se souvenant qu'il est toujours facile de juger après coup, bien entendu. Et que voilà, c'est à titre de contrepoint pour faire notre propre examen de conscience qu'il faut lire ce livre et non pas pour juger les morts, bien entendu. Je rappelle les références de l'ouvrage, La catastrophe de la montagne Pelée, un autre regard, c'est aux éditions L'Harmattan par Jean-Paul Poirier. Merci beaucoup, monsieur. Thank you.